Niger, avec notre invité ce matin, l'économiste Olivier Vallée, ancien conseiller technique justement au Niger. Il analysera les décisions récentes de Niamey de quitter l'organisation de la francophonie ou encore d'expulser trois dirigeants chinois d'entreprises pétrolières. Mais tout de suite, ce sont les sports. Les sports avec Baptiste Leduc. Bonjour Baptiste.
Bonjour Xavier.
Et tout d'abord, cette disparition, celle de George Foreman, le boxeur de légende, est décédé il y a quelques heures aux États-Unis.
C'est sa famille qui l'a annoncé. George Foreman s'est éteint paisiblement à l'âge de 76 ans et avec derrière lui une vie et une carrière tout simplement exceptionnelles, émaillées de 2 titres de champion du monde des poids lourds et de quelques combats légendaires. Entre tous, on retiendra évidemment le combat du siècle contre Mohamed Ali. C'était à Kinshasa en 1974, devant 100 000 personnes. George Foreman et sa puissance surhumaine avaient fini par céder face à la virtuosité d'Ali, le seul chaos d'une carrière achevée définitivement en 1997. La boxe perd donc une de ses plus grandes légendes. Écoutez la réaction de Souleymane Sissoko, le boxeur franco-sénégalais.
George Foreman, c'est une icône pour nous, c'est une source vraiment d'inspiration pour nous, en tout cas en tant que boxeur, parce que c'est quelqu'un qui a illuminé la boxe. Le fait de revenir après 10 ans d'arrêt au sommet, pour moi, c'est une preuve de résilience. Et il inspire plus d'un boxeur et même sportif. Voilà, c'est une icône, hein, c'est vraiment une icône du sport qui a disparu. Il faut se rendre compte, hein, on perd l'un des meilleurs poids lourds de tous les temps. L'un des meilleurs poids lourds de tous les temps en boxe. C'est clair et net.
Des propos recueillis par Martin Guèze.
En football, Baptiste, les qualifications pour le Mondial 2026 se poursuivent en Afrique. Belle opération hier pour le Nigeria au Rwanda.
Les Super Eagles sont allés chercher un succès capital 2-0 à Kigali. Une première victoire dans ces éliminatoires signée Victor Osimhen, auteur d'un doublé. 3 points qui replacent des Nigérians mal embarqués dans la course à la qualification. Et ça rassure Eric Schell, le sélectionneur faisait hier ses débuts sur le banc du Nigeria.
C'était un match difficile parce que le Rwanda a une bonne équipe. Je connais l'entraîneur, c'est un bon coach. Nous avons livré un grand match. Je suis très heureux pour mes joueurs et pour le peuple nigérian. Nous avons beaucoup travaillé pendant une semaine avec certes 2 séances d'entraînement, mais beaucoup de séances vidéo et beaucoup d'informations pour mes joueurs. Nous avions un plan de jeu et mes joueurs l'ont bien exécuté. Donc je pense que la victoire est bien méritée.
It's normal. Et Richel au micro de Bright Abiola.
Et parmi les autres rencontres disputées hier, on retient les victoires de la Côte d'Ivoire et de la RDC.
Service minimum pour les Ivoiriens contre le Burundi. Victoire 1-0, but marqué par le Niçois Evan Guessan. Ça suffit pour les éléphants qui conservent leur invincibilité. Ils sont en tête du groupe F avec 13 points, une unité seulement devant le Gabon. Même résultat 1-0 pour les Léopards de la RDC. Le but de Théo Bongonda permet aux hommes de Sébastien de Sabre de s'imposer face au Soudan du Sud et de recoller en tête du groupe B en attendant le match entre le Soudan et le Sénégal ce samedi. Dans les autres rencontres, peu de surprises. Le Ghana a étrié le Tchad 5-0. Victoire du Maroc contre le Niger et de l'Égypte face à l'Éthiopie. Seule contre-performance à noter, celle de la Guinée, incapable de faire mieux qu'un match nul 0 partout devant la Somalie.
Merci Baptiste Leduc, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Le reportage en Centrafrique dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce samedi 22 mars. Avec ces grandes manifestations hier en Turquie pour le 3e soir de suite. Cortège de centaines de milliers de personnes à Istanbul, Ankara et Izmir à l'appel du parti CHP. Mobilisation pour protester contre l'arrestation de son leader, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Les manifestations étaient interdites et ont été réprimées avec du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Au moins 97 personnes ont été arrêtées. Israël, au bord de la crise constitutionnelle, la Cour suprême gèle la décision du gouvernement sur l'éviction du chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou menace de passer outre. La procureure générale met en garde le chef du gouvernement et la principale centrale syndicale israélienne menace de grève. L'un des principaux rassemblements d'entreprises du pays ainsi que le barreau font de même si le gouvernement décide de ne pas respecter l'arrêt de la Cour suprême. On vous a parlé hier à la même heure d'une initiative pour favoriser le retour à l'école des jeunes déscolarisés. Et on retourne ce matin en Centrafrique, dans la ville de Berberati, à 500 km à l'ouest de Bangui, la capitale centrafricaine. Berberati, dont les principales artères de la ville et des environs sont dans un piteux état, ce qui rend la circulation particulièrement difficile et ce qui impacte les activités socio-économiques qui tournent en conséquence au ralenti. Et c'est pour cela que certains habitants, notamment des jeunes de la ville, prennent sur eux pour reconstruire certaines routes. Reportage de Rolf Steff Domiel.
Au volant de sa voiture, Albert affronte les voies impraticables qui traversent le quartier de Djambala. Pendant cette saison des pluies, le ravin s'est agrandi et la mobilité est pénible. Pris au piège dans une mare, cet homme de 36 ans joue avec son volant pour éviter de tomber dans les ravins.
Et qu'il n'y a-t-il pas si ?
La route est impraticable à cause de l'érosion, des nids de poules et du manque d'entretien. Je suis en train de m'embourber et il va falloir faire demi-tour. À chaque saison des pluies, les trous et les ravins se développent, c'est très pénible.
Le taxi-bus de Mahamat, lui, est en route pour Kenzo, ville frontalière avec le Cameroun. Mais un camion s'est renversé dans les ravins, bloquant la circulation depuis quelques minutes. Alors que les badauds tentent de faire sortir les rescapés, Mahamat craint également pour son sort.
C'est un casse-tête pour circuler dans cette ville. Il n'y a pas de rénovation et l'érosion abîme toutes les routes. Il faudra plusieurs jours pour retirer le grumier qui s'est renversé. Nous sommes tous coincés à cause de ce passage pourri.
Dans ce calvaire, des jeunes volontaires de la ville tentent de débloquer la situation. On les retrouve dans certains quartiers de Berberati, armés de pelles, de pioches et de bouées. Ici, au quartier de Difolo, une dizaine de jeunes sont en activité. Ils n'ont pas de gants, de casques et de bottes. Jeans déchirés, t-shirt noir démembré, Gabriel veut changer les choses.
La route n'a pas été réhabilitée depuis plusieurs décennies. Nous avons bouché quelques trous avec de la latérite pour alléger la souffrance des usagers.
À moto, à vélo, derrière un volant ou à pied, les 100 000 habitants de Berberati vivent le calvaire. Plusieurs quartiers sont coupés les uns des autres selon Yalis, membre de l'équipe.
À certains endroits, nous remplissons des sacs de sable que nous mettons dans les ravins pour empêcher leur progression. Certaines personnes de bonne volonté nous donnent des cadeaux pour nous encourager. Mais on n'oblige personne, c'est un acte volontaire.
L'axe Berberati-Kenzo est l'une des voies de ravitaillement de la République centrafricaine depuis le Cameroun. Selon une source à la direction des travaux publics de la ville, des études sont en cours afin de lancer les travaux de réhabilitation de ces routes dans les prochains mois. Rolf Steff Domiale, de retour de Berberati, RFI.
Et demain, troisième et dernier épisode de nos reportages à Berberati. Notre correspondant s'est rendu dans le marigot de Batouri, à l'entrée de la ville Berberati, où il est maintenant 5h49. Même heure à Niamey, et c'est l'heure de notre invité Afrique ce matin. On parle du Niger. Le Niger, pour qui ce mois de mars est très riche, puisqu'en l'espace de quelques jours, les militaires au pouvoir à Niamey ont décidé d'expulser trois dirigeants chinois de sociétés pétrolières, puis ont quitté l'Organisation internationale de la francophonie, imitée ensuite par le Burkina Faso et le Mali. Alors pourquoi cette offensive souverainiste de la part du président de la transition, le général Tiani? Quels sont les dessous de ces deux choix politiques? Notre invité Afrique ce matin, l'économiste français Olivier Vallée. Il a été conseiller technique au Sahel, notamment au Niger. Et il répond ce matin aux questions de Christophe Poipouvier.
Olivier Vallée, bonjour.
Bonjour.
Pour expliquer leur rupture avec la francophonie, les trois pays de l'AES affirment que l'OIF est un instrument politique téléguidé, sous-entendu par la France. Pourquoi ont-ils attendu jusqu'à 2025 pour rompre ?
Ce qui s'est passé, c'est que les trois pays de l'AES ont essayé, via l'OIF, de rétablir des relations plus paisibles avec Paris et qu'à chaque fois, ça a été, en particulier vis-à-vis du Niger, ça a été un refus. Fut catégorique. Deuxième facteur, c'est qu'en grande partie sous l'influence de l'Élysée, l'OIF a été peu à peu rempli à un certain nombre de postes de franco-sahéliens. Et les franco-sahéliens qui étaient dans l'OIF ont plutôt milité ouvertement contre les pays de l'AES.
Est-ce que la réintégration dans l'OIF de la Guinée-Conakry, c'était en octobre dernier, a provoqué un mécontentement chez les pays de l'AES ?
Non, pas vraiment. C'était simplement la manifestation de plus qui tendait à prouver que les proscrits de la francophonie n'étaient pas les ennemis de la démocratie, mais plus spécialement ces trois pays de l'AES.
Le Niger est aussi dans une relation exigeante avec son partenaire chinois, puisqu'il vient d'expulser trois responsables chinois de la gestion de sa filière pétrolière. Pourquoi cette mesure d'une grande fermeté ?
En matière pétrolière, les grands accords sur l'ensemble de la filière, que ce soit le pipe qui est géré par une filiale sino-béninoise WAPCO, la raffinerie Soraz, qui est un Zinder, qui est une filiale sino-nigérienne, et l'extraction même du pétrole qui est assurée par la compagnie chinoise CNPC. Ce sont des accords qui ont été passés principalement par l'administration Issoufou et pour ce qui est de WAPCO, par un ministre du pétrole qui s'appelle Bazoum, qui va devenir ensuite, on le sait, président. Donc je crois qu'il y avait un litige ou plusieurs litiges sur tous les contrats qui ont été signés pendant l'administration Issoufou et l'administration Bazoum, et que des incidents récents lors de la convocation de dirigeants chinois des filiales nigériennes auprès du ministre du pétrole, ça a été d'une certaine façon la goutte de pétrole qui a fait déborder le baril et qui a poussé le gouvernement du Niger à cette décision d'expulsion dans un cadre juridique. Maintenant, le dossier est confié au ministre de la Justice qui va demander plusieurs audits et en particulier un audit sur le fonctionnement de WAPCO.
Donc en fait, c'est pas une mesure individuelle contre ces trois cadres chinois, c'est une mesure contre l'État chinois qui ne verse pas assez de royalties et qui ne paye pas assez d'impôts.
C'est certainement un des éléments qui devrait apparaître à la suite des audits et de la révision des contrats. Et on est un petit peu dans le cadre de la reconquête du contrôle des ressources minières qu'on observe dans les autres pays de l'AES. Ce qui est plus particulier dans le cas nigérien, c'est que toutes les clauses des contrats passés avec les administrations précédentes sont restées secrètes et n'ont pas été transmises au gouvernement actuel du Niger. Donc l'identification du manque à gagner ou du déficit fiscal qu'aurait subi le Niger n'est pas encore établie. Et donc ces trois responsables chinois n'ont pas fait l'objet d'emprisonnement, de menaces, de rétention. Ils ont été expulsés par une décision motivée.
Le Niger a trop besoin de la Chine pour pouvoir jeter en prison des ressortissants chinois.
Je pense qu'il y a deux choses. Il n'est pas nécessaire pour le Niger d'arriver à une relation aussi tendue avec la Chine qu'avec la France, et que deuxièmement, la prison, en particulier pour des ressortissants étrangers, ne fait pas partie des habitudes du Niger.
Olivier Vallée, merci.
L'économiste Olivier Vallée, l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier.
Afrique Matin sur RFI.
Et puis avant de retrouver Julien Coquelle-Rohem pour le début des RFI Matin, dans un peu plus de 3 minutes, on fait un crochet, une fois n'est pas coutume, par les États-Unis. Alors qu'à Washington, le président Donald Trump a signé avant-hier un décret pour dissoudre le ministère de l'Éducation, administration jugée trop coûteuse et même inutile. Pour l'instant, même s'il faut encore le feu vert du Congrès pour que la mesure soit effective, les enseignants américains sont inquiets. Julien Chavanne a pu joindre pour RFI une professeure d'art plastique au Texas, Eleonore Lee, qui enseigne dans une école élémentaire et à l'université à San Antonio, indignée par la décision de Donald Trump.
Il met à feu et à sang le système éducatif américain. Il enlève tous les systèmes mis en place pour créer une égalité entre tout le monde.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les établissements scolaires ?
D'un côté, le système fédéral redistribue l'argent pour équilibrer les États. Donc s'il y a un État riche comme le Massachusetts ou la Californie, en effet, ils sont en train de soutenir la Louisiane et le Mississippi parce qu'ils ont moins d'argent. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on enlève. Il y a aussi ce qu'on appelle le federal oversight. Donc il y a un système mis en place pour aider les familles, par exemple avec les enfants avec des problèmes éducatifs, pour les soutenir. Tout ça va partir. Ça fait des années qu'on dit ça. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a un certain élément chez les Républicains qui n'aiment vraiment pas l'école publique. Et ils ont fait absolument tout pour bousiller l'éducation publique. Et si on enlève tout l'argent et puis on dit, mais regardez, ils sont en faillite, ben vous avez fait ça exprès.
Vous aviez imaginé en début de carrière, en faisant des études pour devenir prof, d'être dans une forme de résistance aujourd'hui ? Ça vous paraît un peu incroyable ?
Absolument pas. Oui, absolument pas. Mais en même temps, je reste parce que je vois, c'est beaucoup plus avec les élèves d'université, je vois la peur. Mais vraiment, peur, c'est pas un mot fort. Ils sont affolés, ils ont peur, ils savent pas ce qui va venir, où ils vont, qu'est-ce qui va leur arriver. Surtout mes élèves qui ne sont pas d'origine anglaise ou européenne, ou qui sont homosexuels, ou qui ont des problèmes physiques, parce que ils se sentent directement attaqués par un système qui dit que vous ne nous intéressez pas. Si vous boitiez, allez vous faire voir. Si vous ne parlez pas l'anglais, c'est pas mon affaire, débrouillez-vous.
Est-ce que vous avez encore les moyens de résister face à ça ? Est-ce que sur ce plan-là, on peut contrer ce projet de Donald Trump ?
C'est possible, mais en ce moment, je pense que les gens sont bouleversés parce qu'il y a tellement qui se passe. Tous les changements viennent, ce sont des changements très forts, rapides et sans arrêt. Donc, il y a peut-être des gens qui doivent en même temps se battre pour d'autres choses, donc on a moins de gens pour à qui parler. Donc on peut résister, mais on ne sait pas si la loi va être suivie et les contrats sociaux qu'on a suivis jusqu'à présent.
Éléonore Lee, professeure d'art plastique, jointe au Texas par Julien Chavanne. Un entretien qui vient clore cette demi-heure passée ensemble. Merci à Thierry Le Saint et à Vincent Dublange, à la réalisation et à la rédaction en chef de cette édition d'Afrique Matin. Restez avec nous sur RFI, dans une minute, le journal, toute l'actualité internationale.
L'épopée des musiques noires.
Le chanteur belge David Lynx a fêté son 60e anniversaire en accueillant en studio d'éminents musiciens afro-américano-caribéens. Il nous présente l'album Real Men Cry, avec lequel il promeut la bonté, l'écoute et le partage. Sa relation privilégiée avec l'écrivain américain James Baldwin, il y a 40 ans, a affirmé son engagement personnel et ses convictions. Rendez-vous dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, tout à l'heure à 13h31.
RFI. Religion du monde, Véronique Guémard.
La chute du régime de Bachar al-Assad a suscité beaucoup d'espoir parmi les habitants et les nombreux réfugiés qui avaient fui les combats. Mais de nouvelles violences ont assombri les perspectives de paix dans un pays très divisé, avec une mosaïque confessionnelle et ethnique complexe instrumentalisée par certains groupes.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.